Eh bien, chers frères et sœurs, je me réjouis d'être présent parmi vous à l'occasion donc de la visite de ma famille. Je suis le tonton d'Alexandre, hein, donc si vous voulez préciser, et le beau-frère de Samuel et de Cécile, qui sont aussi parmi nous. Voilà. Donc, je viens d'une petite ville du sud de la France, Marseille, qui est bien connue pour son équipe de football. Je ne sais pas si vous... Entre autres, hein, je sais aussi qu'il y a le port du fusil. Je précise, ce n'est pas des fusils, ce sont des kalachnikovs. Ce n'est pas pareil. Eh bien, chers frères et sœurs, je me réjouis de partager le pain d'en haut. J'enlève ma montre parce que je suis de Marseille. Je peux être très, très long. Et comme je sais qu'il y a des rôtis sur le feu, il faut que je fasse vite pour vous communiquer le message de la parole du Seigneur que j'ai voulu aussi être dans le cadre des événements que nous rencontrons. Et bien sûr, nous sommes pendant ces fêtes de fin d'année et de début d'année. J'étais donc avec mon épouse hier chez ma nièce, dans le Luxembourg, près d'Arlon. Et j'étais très content de voir qu'elle avait mis une parole biblique qui m'a fait beaucoup de bien. C'est par Jésus que Noël est joyeux. C'est en Jésus que Noël est joyeux. Alors, ça semble une évidence, mais si vous faites bien attention à ce que vous avez autour de vous, c'est la plupart de nos compatriotes, et même dans le monde entier, ont fêté Noël, même au Japon, hein, dans des endroits qui ne sont pas chrétiens. Il y a 1% de chrétiens au Japon, et le journaliste s'étonnait de voir cet engouement pour fêter Noël. Mais je me demande s'il y avait cette joie que nous donne le souvenir de la venue du Seigneur Jésus. Alors je m'efforce de rappeler aux enfants, Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. J'espère que vous vous en souvenez. C'est son anniversaire. Il y a même la date de sa naissance sur nos calendriers, pour le moment. Parce que nos concitoyens ne trouvent plus la joie en Jésus. C'est Jésus qui rend Noël joyeux. Mais c'est aussi, et ça a été évoqué tout à l'heure, l'espérance du retour du Seigneur qui rend l'année joyeuse. Nous nous attendons à recevoir des vœux, et c'est pas anti-biblique. Dans la troisième épître de Jean, on lit l'apôtre Jean envoyant ses vœux à son ami Gaius, qui est dans une situation assez délicate, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Dans la troisième lettre de Jean, la petite lettre de Jean, vous avez dans l'introduction, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ah, et vous avez vu combien nos concitoyens s'attachent au jour de l'an à vous dire « bonne santé, hein ?» Et en tout cas, en France, c'est la première chose qu'on vous souhaite. Bonne santé. Hein. Ah, la santé, c'est le plus important. Et l'apôtre, lui, rajoute, comme prospère aussi l'état de ton âme. Parce que s'il y a une santé physique que nous désirons souhaiter à tous, il y a une santé morale et spirituelle, qui se compose aussi de joie, comme à Noël, comme au jour de la Sainte Seine, cette joie de Christ traversant les cieux, rentrant dans le monde, passant par Bethléem, Marseille aussi, et arrivant jusqu'à mon cœur. C'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie, c'est parce qu'il est né dans l'étable de mon cœur et de ton cœur qu'il y a lumière et joie et espérance. D'une bonne santé, que Dieu nous l'accorde, et d'une santé spirituelle. C'est-à-dire une vie qui est quand même animée par la joie. Cette joie du Saint-Esprit dont parle David. Ne me retire pas la joie de ton esprit. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'annoncerai ton nom à mes frères dans la grande assemblée. Je voulais m'appuyer avec vous donc sur ce thème de l'espérance, mais pas celle de Guy Béard à sa guitare, l'espérance folle. Je voulais m'appuyer et vous transmettre un autre des cadeaux du Seigneur. Il y a son Fils qui est venu la première fois, il y a son Fils qui reviendra une seconde fois. C'est un double cadeau. Le premier fait partie du passé, mais annonce le présent et un avenir prochain. Un double cadeau, un cadeau à deux facettes, une joie qui ne s'éteint pas. Là, j'ai été un peu coquin. Aux enfants, à mes neveux, je leur ai dit « Joyeux Noël » tous les matins. Mais ça fait déjà 3 ou 4 jours que c'est terminé. Et ils m'ont dit, mais non, c'est fini. Non, c'est pas fini. Que la joie de Noël, jusqu'au jour de l'espérance, anime ta vie. Bien entendu, l'essentiel, et je parle peut-être à ceux d'entre nous qui n'ont pas connu cette expérience encore, d'être envahis par la joie du Saint-Esprit, dans leur vie, je leur dis, as-tu réalisé, mon ami, que ton cœur est une écurie ? Parce que Jésus n'est pas né dans une chambre low cost. Il est né dans une étable. Il a même été posé dans la mangeoire. Une étable à brebis, une étable à moutons. Est-ce que certains d'entre vous ont visité des étables à moutons ? On a visité des porcheries, et on s'en souvient, à cause de l'odeur. On a visité des étables, on a visité des écuries à chevaux. Est-ce que vous trouvez que c'est un endroit pour naître ? On n'y fait pas attention. Mais franchement, est-ce que c'est un endroit pour naître ? Au milieu du crottin des animaux. Alors je suppose que Joseph, dans les douleurs de sa femme commençant, s'est procuré un petit balai où il a mis des branches avec, il a un peu nettoyé l'endroit où il a posé la couverture par terre. Il n'y avait pas de lit. Hein. Il a un peu repoussé le crottin des animaux sur le côté. Je sais, et je parle à nos sœurs, si ça leur ferait plaisir d'accoucher dans un tel endroit. Nous avons une sœur à Marseille qui a accouché dans une grange, mais il n'y avait que de la paille. Mais là, nos cœurs, chers frères et sœurs, sont des étables. Nos cœurs sont des écuries. Et nous attendons, comme dans la légende d'Hercule, que l'on nettoie les écuries d'Augias que j'ai à l'intérieur de ma vie. Toute cette somme de péchés s'accrochant aux parois de la grosse casserole intérieure, cuite et recuite. Et le Seigneur vient, et le Seigneur purifie, et par cette lumière, cette puissance de vie, cette gloire. Parce que la gloire, c'est la luminosité, c'est la brillance, c'est le reflet, c'est le rayon puissant qui vient d'écraser mon chaudron intérieur et le remplir d'autre chose que de la crasse cuite de sa vie, de sa lumière. Qu'il y ait en moi un bon potage qui puisse alimenter mes frères, mes sœurs, mes parents, ma famille et mes concitoyens. Un bon potage où on puisse donner à manger de cette joie du Saint-Esprit. Alors j'étais dans l'épître aux Thessaloniciens. Vous savez que les Thessaloniciens, si vous, et je vous invite à reméditer ces deux épîtres, elles sont tout à fait particulières parce que il y a des considérations prophétiques dedans. C'est pas toujours qu'il y a de la prophétie dans les épîtres de l'apôtre Paul ou même dans le reste du Nouveau Testament. Oui, Pierre, certes, qui parle de la fin des temps, l'Apocalypse, bien entendu. Et là, Paul s'adresse à cette église des Thessaloniciens, qui s'appelle maintenant Salonique, et qui a une très bonne équipe de football. Je dis ça entre parenthèses. Hein. Voilà. Et qui avait une grande communauté juive jusqu'aux années de la guerre, puisque les juifs de Salonique ont été entièrement massacrés par les nazis. Eh bien, il s'adresse à ces personnes qui sont dans la souffrance et dans l'épreuve. Et dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 3, l'apôtre Paul va vouloir les encourager. Sorte de vœu d'une année meilleure, d'une année changeante. Nous devons à votre sujet, verset 3, frères et sœurs, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Je vous rappelle les vœux de Jean à Gaius. Comme prospère aussi l'état de ton âme. Et là, nous avons la traduction de cette prospérité spirituelle. Parce que votre foi fait de grands progrès. Et que votre amour et l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmentent de plus en plus. Une confiance dans le message du Seigneur, dans la parole de Dieu. Je traduis, foi, ça veut dire confiance aussi. Hein? On l'oublie. Avoir la foi, c'est faire confiance. Que votre confiance en Dieu, en Jésus-Christ, en son message, en sa parole et en ses effets, fasse de grands progrès, parce que par la foi, on fait de grandes choses. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Eh oui, il faut deux rames à une barque. Vous avez déjà essayé de ramer sur un petit bateau avec une seule rame ? Vous tournez en rond. Ainsi, si vous n'avez que la foi, vous allez tourner en rond. Pourtant, on dit, mais monsieur, la foi, c'est tout. Oui, la foi et l'amour. Et si on a les deux, on ne tourne pas en rond. Alors, l'apôtre rend grâce à Dieu pour tout cela. Aussi, au verset 4, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Vous voyez, il y a des persécutions. Il y a des tribulations. C'est autre chose qu'une persécution. C'est être mis sur le grill tous les jours. C'est être contrarié dans sa foi tous les jours. C'est être opprimé à cause de sa foi en Jésus-Christ tous les jours. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Et un peu plus bas, nous continuons. C'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ça, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas de faire souffrir les saints. C'est de châtier aussi ceux qui oppriment et qui font du mal à ceux qui ont la foi et l'amour par Jésus. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile ou la bonne nouvelle de la réconciliation par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force ou du rayonnement de sa présence. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, les saints c'est nous, hein, attention, ce n'est pas ceux qui sont dans les églises avec une auréole au-dessus de la tête. Les saints c'est nous, c'est-à-dire les gens qui ont été mis à part, qui sont séparés au maximum du mal et du péché, parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils ont confiance en lui et qu'ils vivent l'amour de Christ. Et l'œuvre de votre foi pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Bien. Tribulation, futur jugement de tous ceux qui nous font du mal et qui s'opposent à nous. Rassemblement avec Jésus dans la gloire, ça c'est des vœux, hein. Franchement. Mais voilà, on est sur la terre et la montre court. Et des fois on dit, Seigneur, c'est moi qui suis en ce moment dans cette difficulté. Parce que toi, tu es au ciel. Et notre frère l'a évoqué avec hésitation tout à l'heure. Parce que, Seigneur, pour toi, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Mais pour moi, quand je suis dans les problèmes, un jour, c'est comme 1000 ans. C'est rarement l'inverse. Pour ce qui concerne, chapitre 2, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui dans le paradis céleste, dans la présence de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans l'amour total, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car, alors des signes, voyez. Alors cette espérance, elle doit reposer quand même, non pas sur des raisonnements ou des imaginations. Cette espérance qui nous donne la force de continuer le combat par la foi, avec l'amour. Vous savez, le grand danger de continuer à combattre sans puiser ses ressources dans l'exemple et dans la vie de Jésus, c'est de continuer à combattre sans amour. Et vous savez ce que ça peut produire. Ça produit des sectes, ça produit généralement des divisions et des querelles. Et non, il faut continuer à combattre avec amour. Mais pour cela, je dois quand même avoir un objectif, un objet devant moi qui me dise que ce n'est pas dans 10 000 ans. Quelque chose d'humain. Alors il dit, mais vous avez les signes. Je vous ai laissé les signes. Ça vous semble long, votre épreuve et votre tribulation, dit-il aux Thessaloniciens, qui avaient accueilli la parole de manière extraordinaire, comme ceux de Bérée, qui est à côté. Ils avaient vérifié dans les Écritures que Jésus était bien le Messie, et ils avaient accueilli le message de l'Évangile dans toute sa puissance. Aussi, il s'était passé des choses extraordinaires à Thessalonique. des miracles, des résurrections, des guérisons par la main des apôtres, des choses extraordinaires. Mais voilà, la tribulation, l'opposition des voisins, des collègues, des compagnons de travail, l'opposition était devenue terrible, terrible. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une immense communauté juive qui vivait dans l'endroit et qui a vécu pendant 2000 ans, depuis les diasporas de l'Ancien Testament. Quand ceux de Thessalonique, de la synagogue de Thessalonique, ont accueilli le message de l'Évangile, les trois quarts l'ont rejeté. Les trois quarts des autres juifs l'ont rejeté. Et ils se sont mis à faire des avanies épouvantables à ceux qui avaient suivi Jésus. Ces gens-là étaient persécutés par les leurs, plus que par les païens, par leur parenté, par leur famille, par leurs proches, par leurs patrons. Vous savez que les communautés juives vivaient sur elles-mêmes. Hein ? Des signes, dit l'apôtre Paul. Je vous avais donné des signes indicateurs. Ce n'est pas les seuls qu'il leur a donnés. On en trouve d'autres dans tout le Nouveau Testament de la venue du Seigneur. Mais là, il leur donne deux signes prégnants. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est drôle. Quelqu'un qui s'oppose à tout ce qui est Dieu, on appelle ça un athée. Et c'est un athée qui se fait appeler Dieu et qui se fait adorer comme Dieu. C'est drôle. Un athée qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, qui dit « je suis Dieu ». Mais on le voit. On le voit de plus en plus. En France, vous savez, on avait depuis des décennies, le dimanche matin, on avait tous les cultes radiodiffusés ou télédiffusés. Alors, il y avait les protestants, les catholiques, il y a les musulmans, ces dernières années, qui ont leur émission. Les juifs, bien entendu, émission très intéressante sur la culture juive, sur leur interprétation des Écritures. On a rajouté, ces 10 dernières années, la libre pensée, les francs-maçons. Et je me dis, mais... c'est des gens qui se vantent d'être anti-religieux. Et ils se sont mis à faire leur émission de 9 à 10, hein, s'il vous plaît, juste avant la messe catholique, à faire leur... Ils ont dit qu'ils n'ont pas de religion et qu'ils ne sont pas religieux. Eh bien, vous voyez qu'on peut être laïque, on peut être athée, et pourtant se proclamer religion, se proclamer Dieu. Alors deux signes nous sont donnés. Vous voyez ici, bien sûr, Israël, le devenir d'Israël, c'est l'un des plus grands signes. Matthieu 24, 25, Luc 24, Israël dans la prophétie. Le reliement de toutes les nations contre Israël. Combien d'alliés a Israël à ce jour, à l'ONU? Ben, elle en a un grand, que vous connaissez, outre-Atlantique, elle en a 6. Il y a, je crois, environ 177, 177 nations inscrites, ou 182, parce que avec la chute du mur de Berlin, de nouvelles nations sont nées, hein, comme pour la Yougoslavie, coupée en 4 ou 5 morceaux. Il y a environ 180 nations à l'ONU. Israël a 6 alliés. dans des pays africains. Je ne sais plus si c'est le Zimbabwe ou le Cameroun, je ne me rappelle plus. Mais ça tend à diminuer. Si ça dure encore, le conflit que nous connaissons au Moyen-Orient, il ne lui restera plus qu'un seul allié. Et cet allié, déjà, se débat en disant « Je les soutiens, mais je ne suis pas d'accord. » C'était un signe aussi. Et vous verrez toutes les nations se lier contre Israël. Oh, le livre de Malachi, hein, où toutes les nations les seront assemblées contre Jérusalem, et au moment d'être anéanti, le Seigneur descendra du ciel et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui se fendra en deux. Relisez votre livre de Malachie. Hein? Alors, voilà, Israël, le comportement des nations, l'antisémitisme qui grandit contre Israël. Alors, je n'approuve pas tout ce que fait Israël. Nous, on pense souvent à l'Israël biblique, hein? À l'Israël des prophètes, à l'Israël de Moïse, à l'Israël des apôtres de notre Seigneur. On n'est pas là pour soutenir, on est là pour prier. Deux signes donc, chers amis. L'apostasie. Alors, qu'est-ce que c'est l'apostasie ? Ah, si vous ne savez pas ce que c'est, ça va être dur de le reconnaître dans l'année qui vient. Hein. C'est deux jambes, hein. C'est l'apostasie et l'homme de péché. Eh bien, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, tout simplement. Attention, l'apostasie n'est pas l'athéisme. Un autre, dans l'Épître aux Timothée, on vous dit que l'apostasie, c'est ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Des gens qui restent religieux, mais qui ne vivent plus le Christ dans leur vie. En fait, qui ont un tout petit peu de foi et plus d'amour. Et l'apostasie ne peut arriver que dans l'Église. Hein. Elle ne peut pas arriver dans le monde séculaire. Hein. Donc, quand nous verrons, et c'est en train d'arriver, cette apostasie générale, cet abandon du message et de l'exemple vécu du Seigneur Jésus dans la vie des gens. « Ah, moi, je suis chrétien !» Vous êtes chrétien ? Et ce revolver qui est dans votre poche ? « Oh non, mais c'est pour me protéger. » « Je suis chrétien, hein ?» Les enfants me faisaient une blague hier. Je ne sais pas où ils ont pris ça. Les petits neveux me disaient « Je suis chrétien, mais je suis alcoolique. » J'ai dit, ne dis pas ça. Alors oui, les chrétiens ne sont pas parfaits. On peut avoir des problèmes avec la violence et avec l'alcool. Mais avec l'aide du Seigneur, on en sort. Alors, je passe sur l'apostasie. Ayant l'apparence, on vient de réinaugurer une grande cathédrale à Paris, vous le savez, où les chefs d'État du monde entier se sont réunis, dont le trois quarts sont des incroyants. Ils ont assisté à l'office de consécration, à l'Eucharistie, et il n'y en avait pas un qui croyait en Jésus. Enfin, peut-être un ou deux. Même le président français n'est pas croyant. Il a fait son discours, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Et le deuxième, l'homme de péché. L'homme de péché. Il y a deux interprétations hein, parmi les docteurs de l'Église. Il y a, c'est vrai, cet homme de la fin qu'on appelle l'Antichrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est déjà vu dans le cours de l'histoire de ce monde. Si vous lisez un peu les livres d'histoire, il y a eu les empereurs romains. Vous savez que quand écrit l'apôtre Paul, on n'est pas loin d'un qui s'est proclamé Dieu, un empereur. C'était Néron. Mais la deuxième interprétation, et ça on peut le voir dans le livre de l'Épître à Timothée, bien entendu, chapitre 2, cet homme de péché, c'est l'homme de la rue. C'est monsieur tout le monde. Et quand monsieur tout le monde sera un adversaire qui s'élève et qui s'insurge contre tous les faits religieux, contre toute évocation du Christ. Vous avez vu encore les guerres à Noël? On met l'étoile au-dessus du sapin ou on ne la met pas? Parce que l'étoile, c'est l'étoile de Bethléem. On met la crèche, c'est surtout en France. On met une crèche ou on n'en met pas? Oh, comprenez, c'est religieux la crèche. Hein, ah bon? Parce que Noël, c'est pas religieux? Parce que la naissance du Christ, ce n'est pas religieux. C'est étrange. Hein, mais on l'a vu, ça fait partie de l'apostasie. Ayant l'apparence, mais reniant ceux qui ont fait le cœur et la force. C'est l'incarnation du Fils de Dieu. Sans Noël, on n'est pas joyeux. Sans Jésus, on n'est pas joyeux à Noël. Et bien, c'était le cas. Alors cet homme qui s'élève, c'est l'homme de la rue. Il va s'élever contre toute la vraie spiritualité, pas contre toute spiritualité. Le bouddhisme, le shintoïsme, le zen, tout ça c'est autorisé. Et on vous dit même du bien sur la chose. Hein. On vous dit bien, même du bien sur l'islam. Religion de paix et d'amour. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les faits. Hein. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Pas le message de l'Évangile. C'est le vent contre l'Évangile. C'est le vent contre le message de l'Évangile. Et quand vous verrez cet anti-christianisme s'établir, même là, dans le temple de Dieu. Alors, quelles interprétations ? Le temple de Dieu à Jérusalem, qui n'est pas encore reconstruit ? Ou le temple de Dieu, selon l'Épître aux Corinthiens, l'Église. Eh bien, on verra l'athéisme régner au sein de l'Église. On a déjà vu des choses pareilles et on commence à le voir, se proclamant lui-même Dieu. Alors, je ne vais pas argumenter très longtemps sur la chose, chers frères et sœurs. Il y a cet homme de péché qui nous est décrit, vous savez, dans les épîtres, l'apôtre parle de cet homme, de cette personne, de cette personne du genre humain qui n'a aucune des vertus qui sont prêtées aux chrétiens. Vous le savez, c'est le célèbre verset « Alors, ils seront rebelles à leurs parents ». Tiens, ça m'intrigue, parce que je le vois de plus en plus. Insensible, calomniateur, rebelle à leurs parents, déloyaux, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas leur parole. « Oh oui, oui, non, je viendrai t'aider. Hein. » Et le lendemain, je ne t'ai pas vu. Tu m'avais dit que... « Ah oh, ouais, mais je n'ai pas eu le temps parce que j'avais quelqu'un, mon cousin m'a téléphoné. » Déloyaux, calomniateurs, insensibles, sans pitié et sans bonté naturelle, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant donc l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voilà l'homme de péché, voilà la femme de péché que nous rencontrerons de plus en plus dans nos rues. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, vous allez sur la grande place d'une de vos villes et vous allez chanter un cantique. Et vous allez voir la réaction. Bon, ce n'est pas des pierres, c'est interdit. Hein. Peut-être des tomates pourries. Mais la plupart du temps, ce sera des ricanements, des rires, des insultes. L'homme de péché est déjà là et se balade dans les rues. et met le feu au sapin de Noël, comme vous avez pu le lire dans l'actualité. Mais pour nous, alors nous, on ne veut pas être de ces gens-là. On veut être la personne qui est décrite dans l'Épître aux Galates, chapitre 5 et au verset 22, vous le savez, 9 qualités, ça fait beaucoup. Galates 5, 22, et même alentour. Alors, il y a les œuvres de la chair, en Galates 5, 19, ça, on en a parlé. On peut même rajouter, regardez, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, c'est-à-dire le désir de nuire, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et ça, à Noël, on l'a vu, et les choses semblables. Je vous dis que ceux qui pratiquent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais après, ne nous laisse pas sans espérance, mon frère. Mais le fruit de l'esprit dans la vie du croyant, c'est l'amour. Ah, on l'a évoqué tout à l'heure. J'ai eu des difficultés avec ce fruit. Au début de ma conversion, j'ai eu beaucoup la foi. Mais je n'avais pas beaucoup d'amour et ça m'inquiétait beaucoup parce que c'est le premier qui est noté. Il a fallu que j'apprenne à aimer mon prochain. La joie, la paix, la patience, parce que les choses ne sont pas rigolotes dans ce monde, la bonté ou la bienveillance, la bonté, la bienveillance ou bénignité, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que je vous souhaite ? De vivre dans l'espérance de l'année qui vient. Oui, nous l'avons chanté tout à l'heure, le Seigneur, mon Dieu, est mon essentiel. Et si Dieu, si la personne de Jésus, si Dieu fait homme, si Jésus-Christ n'est pas votre essentiel, vous allez passer une très mauvaise année. Si votre essentiel est ailleurs, ça va être très mauvais. C'est sûr, c'est déjà annoncé dans la presse, ça ne va pas bien du tout dans ce monde. Mais si ton essentiel, la chose la plus précieuse qui est dans ta vie, c'est l'amour de Jésus, c'est ton amour pour lui et son amour pour toi. C'est le dialogue, c'est l'échange, c'est la vie avec lui. Si lui, c'est l'essentiel, alors tu vas avoir une très bonne année. Et tu vas porter ses fruits qui te rendront beau et belle et qui attireront encore ces quelques-uns qui sont sans espérance et sans lumière parce qu'ils vont voir de la lumière dans tes yeux et dans ta vie. Et ils vont voir que ton étable, on a tous une étable, hein, même quand Jésus est là, sauf qu'elle est propre pour les chrétiens. Et elle sent bon. Ton étable est éclairée. Elle est propre et elle est balayée. Et elle est bien habitée par le Seigneur qui s'est incarné. Je vous souhaite beaucoup d'espérance. De vivre dans l'espérance de son retour, de son triomphe, de son avènement, son triomphe sur la méchanceté, sur la noirceur du monde, sur tout ce qui est désagréable. Je vous souhaite donc une bonne année. Prions le Seigneur. Nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu as placé dans nos cœurs ton esprit afin que ta vie se manifeste en nous, qu'elle nous transforme et que nous changions, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de progrès en progrès, que nous puissions avancer vers Jésus, vers la ressemblance à Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir essentiel. Oui, Seigneur, que l'essentiel soit en nous et avec nous. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu veux le faire ce matin, et si quelqu'un avait son étable vide, que tu puisses rentrer dans sa vie, lui donner la joie, la paix, l'amour, la patience, la douceur, la bienveillance qui sont promises. Au nom de Jésus. Amen.